divisée beaucoup en ce moment par les instances, que la culture n'est pas, c'est pas un sujet essentiel. Moi, je pense le contraire. Qu'est-ce que ça va changer que ce soit plus prioritaire, par exemple, pour les budgets, etc. Est-ce que ça modifie notre raison de vivre, notre manière de vivre? Est-ce que le théâtre, par exemple, ça nous apporte quelque chose? Est-ce que de regarder un beau tableau, ça nous apporte quelque chose? Hein? Est-ce qu'il va changer notre vie?
Voilà. Très bien. Je pense qu'on peut, de manière très large, hein, vous me dites si je trahis, sur la place et la fonction de la culture aujourd'hui dans nos sociétés. Quelle place lui accorder? Effectivement, au moment des restrictions liées à la pandémie, ce qu'on a fermé, d'abord, ce sont les théâtres, les cinémas, enfin, les lieux de culture, c'est les derniers à avoir été réouverts. C'est pas considéré comme des biens premiers. Je vous laisse encore méditer. Non, c'est bon? Pas d'autres propositions? Donc Marie-France, on redonne le micro.
Alors le premier sujet, donc, c'est l'acte créateur.
Sur la question de l'art. Alors voilà, donc qui souhaite, donc là vous pouvez encore une fois, je me répète, hein, voter pour autant de thématiques que vous souhaitez.
Je me déplace.
Non, c'est d'accord. Bon. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, sur la question de la création, de la créativité artistique. Deuxième question, c'était sur la question du féminisme, si ma mémoire est bonne. Donc, la question du féminisme. Ces façons de s'organiser, de lutter pour la cause des femmes et ses effets sur l'ensemble de la société et, plus précisément, avez-vous dit, sur les femmes elles-mêmes. Donc, sur la question du féminisme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Troisième sujet.
La parole et ses limites.
La parole et ses limites, sur la question finalement des règles. Est-ce qu'on est autorisé à outrepasser les règles et la question de la prise de parole. Est-ce qu'on est en droit de tout dire sans limite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Puis, il y avait un dernier sujet sur la place. Le rôle, la fonction de la culture dans nos sociétés, alors aujourd'hui et de manière intemporelle. Donc sur la question de la culture. Pardon, je
pose ça. Non, mais c'était bon.
Ça a été pris en considération, c'est
vrai? Ah oui, ouais, c'est
pardon.
Bon, c'est bon.
Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça se joue à une voix, c'est ça, hein?
C'est à une voix près, ouais. C'est la culture qui gagne.
Ouais, c'est ça, là. La dure loi de la démocratie. Très bien. Alors, la question de la culture. Alors, monsieur, hop, on redonne le micro. Pourquoi cette question et qu'est-ce qui vous fait la
poser?
C'est que je suis de la source, par exemple. Et je trouve que dans les préoccupations des responsables en ce qui concerne la source, la culture vient vraiment en dernier. Et puis ça a un impact. Les gens de la source, on ne les retrouve pas au théâtre, très peu. Hein. On ne les retrouve pas. Alors peut-être qu'on les retrouve au pâté, hein, au cinéma, bon. Mais c'est pas. Ouais, c'est différent. Et donc, c'est ce qui me pose problème. J'ai essayé de faire un certain nombre d'articles sur la culture à la source, Mais c'est quand même assez compliqué, et j'ai l'impression que ça, c'est loin des préoccupations, en plus, c'est loin des préoccupations des gens. Les gens préfèrent rester devant leur télé le soir que d'aller à un spectacle de théâtre où ça oblige aussi, ça oblige à réfléchir. Si on prend le programme du Théâtre d'Orléans, effectivement, il y a un certain nombre de pièces qui sont des pièces très populaires, hein, où il y a des acteurs très connus. Là, ça attire un peu de monde. Hein. Mais quand ça demande un peu de réflexion, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça ma question, c'est-à-dire, moi je suis convaincu que la culture, depuis toujours, que la culture amène quelque chose dans notre vie de tous les jours, dans la vie en société. La culture, on sait bien, tous les arts, hein, tous les arts, par exemple, je pense que le mur en street art, par exemple, le mur d'Orléans, à côté des cars, hein, moi je suis de près, hein, y a des gens qui passent et qui sont très, très contents de voir, tiens, c'est un nouveau style, hein, grâce à ce mur, ils découvrent plein de styles de street art, qui est un domaine très particulier quand même, hein, mais c'est une approche dans la rue. Hein, important pour découvrir les couleurs, les styles, les formes, etc., et qui amène quelque chose, je pense qu'il amène quelque chose à l'individu. Voilà.
Très bien. Merci, monsieur.
Je vais reprendre le micro, ça va vous donner avec deux micros.
Merci. Je vais sans doute être hors sujet par rapport à ce que dit Bernard, parce que il faut s'entendre par ce qu'on appelle la culture. Je pense que connaître du droit administratif ou du droit constitutionnel, ça fait partie de la culture, d'une part. Puis d'autre part, la culture, ce n'est pas forcément le théâtre. On peut voir des pièces à la télé aussi. Donc il faudra peut-être restreindre ce qu'on entend par culture.
Je vais vous laisser réagir avant de reprendre la parole. Mais... Madame, oui.
Moi, je pense qu'on est très loin et que le soir tombe tôt. Moi, maintenant, je n'ai plus le courage de retourner à Orléans le soir. C'est le soir, le tram, tu l'as toutes les 20 minutes. Passer, enfin, dans la journée, ça va, quoi. Mais le soir, moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans le tram qui devenait vide à partir de l'université pour rentrer chez moi. Mais c'est sinistre, je peux pas. Et aller en voiture, c'est un peu compliqué parce qu'il faut partir à des heures où c'est des embouteillages, etc. Il faut trouver une place et tout. Alors, j'entends bien ce que tu dis. Puis c'est très trivial de répondre que c'est trop loin, qu'on est dans la brousse. Mais ça compte aussi. Ces choses-là. Qu'est-ce que l'on a sur place ? J'habite depuis un peu longtemps à la source. Je me souviens d'une époque que les jeunes gens ne peuvent pas connaître, où nous avions un ciné-club hebdomadaire, où nous avions du théâtre, on avait des objets culturels à la source, de façon, je dirais, vu la population, quand même assez nombreux, assez audacieux, où il y avait du monde. On est devenu un quartier.
Bon, il me semble que si on veut revenir un peu aux trois interventions, si on veut essayer de s'entendre sur ce qu'est la notion de culture, on est très vite quand même placé dans l'embarras. Si vous voyez, enfin, on a à la fois, c'est un terme très polysémique, alors la vision la plus large, la conception la plus large de la culture. C'est que finalement, tout ce qui est produit par l'homme, tout ce que l'homme produit, est culture. En ce sens, la culture, c'est l'homme ajouté à la nature. C'est-à-dire que ce player, c'est un objet que culturel. Alors, non seulement il présente les activités culturelles que je vous recommande, mais c'est un objet culturel, c'est-à-dire que tout ce que nous produisons, ce sont des artefacts, et c'est bel et bien le fruit d'une production humaine. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que on a posé une fin, c'est donné une fin, un objectif, quel qu'il soit, et on a anticipé et essayé d'aménager les moyens les plus adaptés pour produire cette fin, cette chaise, cette salle, enfin bref. N'importe quel produit humain relève de la culture. En ce sens, il n'y a aucune différence entre une pièce de théâtre de boulevard, une pièce de théâtre peut-être plus exigeante, et ce que vous évoquiez concernant le droit, ou le tram qui vous conduira, ou la voiture qui vous conduira en centre-ville, vous ramènera à la source. Donc ça, c'est la conception plus large. C'est-à-dire que, est-ce que la culture, elle est secondarisée ? Est-ce qu'elle est loin de nous ? En fait, non. Nous sommes des êtres culturels, malgré nous, et nous vivons dans des lieux, des espaces qui sont façonnés par la culture humaine. Si vraiment c'était ça la culture, si vraiment ça n'était que ça la culture, je veux dire que la question ne se poserait pas. C'est-à-dire que, bah, voilà, enfin, la culture, elle est partout. Et puis ensuite, il y a une seconde conception qui concerne, oui, mais très bien, vous avez raison, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de confondre l'art et la technique ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de confondre ce que des artistes peuvent nous proposer, créer et nous proposer ? Et ce que des artisans, ou des techniciens ou des ingénieurs produisent. Et c'est-à-dire que cette chaise, pour l'instant, ce n'est pas une œuvre d'art. C'est un outil, c'est un objet visuel qui a une fonction, ça nous permet de s'asseoir, mais ce n'est pas une œuvre d'art. Et en ce sens, effectivement, on pourrait estimer, en tout cas c'est le constat que vous avez partagé, que la culture entendue comme ce supplément d'âme que l'homme ajoute à la nature, ou que l'homme ajoute à sa propre existence, que cette culture-là qui serait finalement liée à l'activité créatrice, que cette culture-là, elle semble soit réservée à des lieux spécifiques, donc ce que vous avez évoqué, entre le centre-ville et la source, ou d'autres quartiers, soit réservée à des publics spécifiques. C'est-à-dire une culture qui serait peut-être un petit peu élitiste, ou moins élitiste, plus accessible, plus ou moins accessible, soit réservée à des amateurs ou des amatrices qui auraient eu la chance à un moment donné de croiser ou, la route de la culture, ou le chemin de la culture, ou d'être initiés à goûter ce que la culture peut avoir de plus beau et de plus, je veux dire, transcendant, pour employer des termes un peu exacts. Tout à l'heure, dans le propos liminaire que vous teniez, monsieur, pour introduire la question, vous évoquiez le plaisir qu'on peut avoir à contempler une œuvre d'art. Mais finalement, et peut-être qu'on pourrait repartir de là, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir du plaisir à contempler une œuvre d'art, à suivre une fiction à la télé, à être au théâtre, à être dans... Bref. En tant que spectateur, ou qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir un plaisir immense à créer des œuvres d'art ? Et pourquoi est-ce que ce plaisir-là, si vraiment il était universellement humain, pourquoi est-ce qu'il n'est pas partagé par toutes et par tous ? C'est-à-dire finalement, pourquoi est-ce qu'on se retrouve à quelques-uns ou quelques-unes dans une salle de théâtre parce qu'on a une foule de voitures vers Cap-Saran ? Pour un Black Friday. C'est-à-dire, finalement, c'est ça. C'est finalement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut apprécier ce que la culture humaine, au sens de la production artistique, est à même de nous proposer. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça nous touche ou ça ne nous touche pas ? Et pourquoi, finalement, ensuite, les pouvoirs publics vont-ils décider dans leur politique de réserver ceci à tel ou tel type de quartier, tel ou tel type de public, tel type de sphère sociale et pas d'autres. Finalement, voilà, qu'est-ce qui fait que, d'où vient l'émotion que l'on peut ressentir face à une œuvre d'art ? Et pourquoi est-ce que nous, oui, d'autres, non, moi, non, vous, oui, enfin, voilà, d'où vient cette relativité, me semble-t-il ? La question, elle est en partie là. Au-delà de ce que vous avez noté, madame, je pense qu'il faudrait qu'on y revienne, sur l'accès à la culture. Voilà, sur l'accès à la culture, sur l'effort que ça peut nous demander. Excusez-moi, j'ai parlé longuement, je vous laisse ma parole.
Ça fait mieux de nos possibilités personnelles.
Allez, hop, on va. Juste après, madame. Hop.
Le micro pour réagir.
Ça marche, c'est bon ? Non.
On va d'abord écouter.
L'accès à la culture, selon moi, se fait aussi dans les médiathèques, les bibliothèques. Moi, toute jeune, j'étais déjà un rat de bibliothèque et j'ai beaucoup lu et je pense avoir trouvé là un moyen de me cultiver, de vivre d'autres vies que la mienne dans les livres. Et pour moi, ça, c'est la culture et c'est relativement facile d'accès, je pense.
Oui. Très juste. Donc des vies parallèles.
Oui.
C'est ça, la culture, ça nous ouvre des horizons parallèles, des vies parallèles qui s'ajoutent à la vie qu'on mène.
Oui, ce qui peut faire qu'on s'y intéresse, c'est nos sensibilités personnelles et le fait aussi de la transmission, par exemple, si on a été dans notre éducation sensibilisé par nos parents, par notre entourage, je pense que ça nous donne plus envie. Ça peut nous donner en tout cas l'envie d'aller voir une pièce de théâtre, un film, lire un livre, être devant un tableau ébloui, par exemple.
Très bien.
Oui, pour l'accès à la culture, je pense qu'il y a, différents accès. Il y a la gratuité et puis il y a la culture qui est difficilement accessible pour un certain public parce qu'il y a certaines cultures et notamment des spectacles comme le théâtre qui coûtent relativement cher et on ne peut pas, même si on a envie parfois d'aller au théâtre, on ne peut pas toujours se payer l'abonnement complet. Moi je sais que en ce qui me concerne, je ne peux pas multiplier les abonnements, donc je choisis une pièce de théâtre sur la programmation une fois par an. Mais je ne peux pas me permettre, alors qu'effectivement, il y a un accès facile par la télévision, parce qu'il y a quand même des émissions culturelles qui sont très enrichissantes. Il y a la médiathèque, il y a des expositions de peinture gratuites, mais pour certains spectacles vivants, c'est le prix qui retient.
Oui.
Je reprends. Oui, je reviens sur le sujet qui était proposé. Est-ce que le sujet n'était pas peut-on vivre sans culture ou quelle
place
la culture artistique, artistique est-elle indispensable à nos vies?
Oui.
Et en quoi? Je me souviens, je crois, Aristote, à la fin d'un de ses bouquins, nous parle de l'enseignement de la musique qui devait être imposé à tous les jeunes. Si tu peux nous rappeler pourquoi.
Aristote.
Non.
Non.
Moi, j'ai plutôt le souvenir de Platon.
De Platon, oui.
De se méfier de la musique.
Mais c'est ça, mais. Aristote, tu vois, je pourrais pas te mentionner le passage. Juste un petit.
Dans les politiques.
Ok. D'accord. J'irai voir. Oui, effectivement, la question, c'est de savoir quelle place on accorde à la culture dans nos vies. Ouais. Et pour le dire autrement, savoir si la culture, ça relève d'un besoin de l'homme, au sens vital du terme, au sens où le besoin, c'est ce dont on ne peut pas... c'est nécessaire, c'est ce dont on ne peut pas se passer, ou si, effectivement, c'est un bien secondaire, un luxe, du superflu que l'on pourrait, le cas échéant, s'offrir, mais qui ne serait pas indispensable. Mais je pense que dans les dernières prises de parole, on a compris que finalement, ça relève de notre humanité, ça relève bel et bien d'un besoin. J'ai besoin de vivre, pour vivre, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin, voilà, mon corps a des besoins, mais mon âme en a tout autant. Je vais ouvrir un livre dans une bibliothèque ou ailleurs et je me réfugie ou je vis des mondes parallèles. C'est ça la fiction, la force de la fiction, c'est que ça nous offre une réalité sur la réalité. Soit effectivement je vis des moments intenses, je pense qu'on l'a tous en mémoire à titre privé, d'émotions, vraiment des moments intenses d'émotions, voire même de jouissance esthétique devant tel ou tel œuvre d'art qui nous a été proposée ou qu'on aurait pu proposer, sachant qu'on est aussi soi-même des créateurs. De sorte que on est bien obligé d'arbitrer, le cas échéant, entre les besoins du corps, les besoins du quotidien, et les besoins de l'esprit, qui sont aussi les besoins du quotidien, parce que effectivement tout cela a un coût. Je reviens simplement sur une parenthèse sur la gratuité, sur les politiques culturelles. De plus en plus, la gratuité et la mise en place pour l'accès à certains lieux culturels, que ce soit des théâtres ou des musées, soit pour un public ciblé, les étudiants, les lycéens, les lycéennes, soit pour tout public. Et ce dont on s'aperçoit, enquête sociologique et après enquête sociologique, c'est que ça peut augmenter la fréquentation de ces lieux culturels, mais que, et là c'est parce qu'il y a d'autres causes qui expliquent, surdéterminent l'accès à la culture, ça peut, disais-je, augmenter la fréquentation de l'accès à ces lieux culturels, ça n'en change pas le profil du public. C'est-à-dire que, bien souvent, ceux qui vont aller dans tel ou tel lieu culturel, ils seraient allés, quand bien même ça serait payant, ça dépend effectivement de la somme, mais on n'ouvre pas forcément les lieux culturels à des publics qui en sont pour l'instant exclus en mettant en place forcément la gratuité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la mettre en place, attention, il ne faut pas se méprendre sur mon propos, mais qu'il y a d'autres causes qui expliquent la raison pour laquelle la pratique culturelle ou les pratiques culturelles sont, sont socialement déterminées. Juste une anecdote vraiment très personnelle en deux secondes. Il se trouve que j'ai un intérêt pour l'architecture. Et comme vous savez, on a un fonds régional d'art contemporain, le FRAC, qui est spécialisé dans l'architecture contemporaine. Et il y a trois semaines, un mois, on célébrait les 10 ans du FRAC. Et à cette occasion, les deux architectes étaient invités pour évoquer la construction du FRAC, etc. Alors c'était extrêmement intéressant, surtout qu'ils ont fait une visite, ils ont expliqué pourquoi, comment ils avaient généré ce bâtiment qui est un peu des turbulences, vous voyez, un peu bizarre, quoi, assez étrange, quoi, enfin qui fait un petit peu, qui est un peu singulier dans le paysage architectural du centre-ville d'Orléans. C'était un samedi après-midi, ça avait été annoncé, etc. Il y avait la présidente de la région, enfin la vice-présidente, il y avait les deux architectes, il y avait la directrice du musée, une médiatrice, et dans le public, on était trois. Là, c'est gratuit. Voilà. Donc voilà, c'est-à-dire que alors c'était peut-être un défaut de communication, etc. J'en sais rien, mais il ne faut pas prendre cet exemple comme règle générale, mais quand même, c'est-à-dire que on avait eu cette occasion-là, et puis finalement, il y avait plus de personnes qui encadraient la manifestation que de public. Voilà, on était trois, il y avait plein de petits fonds, il y avait même un diatron. C'est chouette, mais voilà. Et donc, je crois que c'est ça, c'est-à-dire quel sens on donne à la culture dans nos vies. Je pense qu'on est, en tant qu'humain, tous effectivement des êtres, je disais tout à l'heure, de culture et assoiffés de culture. Ça ne signifie pas forcément qu'on va orienter notre vie de la même façon. Sans mettre entre parenthèses la question des conditions d'accès à la culture. Et finalement, c'est ça, c'est... est-ce qu'on pourrait vivre sans culture?
Je vous laisse méditer. Parce que je parle.
Oui, moi je voudrais transformer là un peu la question à quelle culture nous faisons vivre. Je voudrais soulever l'aspect marchandisation de la culture surtout, avec ces événements qui créent la conditionnalité, les grands festivals, les grandes manifestations auxquelles on ne peut pas échapper, au moins au niveau du discours, et qui nous placent... En fait, on doit, ou si on peut y échapper, tant mieux. Mais on consomme la culture. Si on regarde, si on observe un peu le passage des gens, par exemple, lors d'expositions, moi je suis frappé par ces personnes, toutes ces personnes qui font une photo de l'œuvre qu'elles ont devant elles et qui repartent avec une mauvaise photo de l'œuvre sans avoir vu l'œuvre. C'est un conditionnement. Enfin, il n'y a pas la rencontre. Moi, pour moi, le moment culturel, c'est une rencontre. Une rencontre qui nous sort de notre vie quotidienne. Donc, on est hors marchandisation. C'est-à-dire que je dois aller là parce que bon, ben, c'est la mode, par exemple. Ou telle œuvre est reconnue comme œuvre d'art parce qu'elle est dans un musée. Et après tout, est-ce que c'est vraiment une œuvre d'art? On n'en sait rien. C'est le musée qui a décrété que c'était une œuvre d'art, etc. On est toujours confronté à ce problème de vous devez, et ce n'est jamais je vais à la rencontre d'eux. Or, je pense, dès l'éducation, il me semble que effectivement, ces faits culturels doivent être vécus comme des rencontres et on doit apprendre à aller à la rencontre de moments. J'ai envie de dire, parce que ça peut se produire dans la rue aussi. Hein. Je veux dire, tout d'un coup, je peux être arrêté par... Tiens, c'est dessiné comme ça. Tel objet, un arrêt de bus. C'est vraiment cet aspect qui en tout cas je tiens à souligner, et qui actuellement me semble compromis quand même par cet aspect de commercialisation. Et...
Oui, moi j'ai été très frappée en Angleterre. Tous les micros. Ouais.
Pas branché.
Et là, vous m'entendez?
Oui.
J'ai été très frappée. En Angleterre, tous les musées sont gratuits. Et il y a une foule d'enfants. Et on voit des enfants qui sont à plat ventre sur le parquet, qui dessinent, etc., qui d'un seul coup se relèvent, courent dans le musée, s'arrêtent devant une œuvre, restent plantés devant une œuvre. Une rencontre, ils repartent, ils jouent, mais de très jeunes enfants. Et je reconnais que, alors, j'ai tendance à mettre ça quand même en lien avec la gratuité, parce que du coup, on peut rentrer dans le musée pour une heure, pour deux heures, on peut y aller même si on a une famille nombreuse avec ses enfants. Mais j'ai jamais vu de scène comme ça en France. J'ai jamais vu des enfants jouer dans un musée et puis d'un seul coup s'arrêter dans une œuvre, repartir, etc. Je pense que donner accès à la culture très tôt aux enfants, c'est quand même, je pense, quelque chose de fondamental.
Quand même, à la Villette, les gamins ils courent partout. Hein. Ouais. Ah, quand même. Non, mais j'ai jamais vu ça. Ça existe. Moi, je suis allée régulièrement, enfin, je suis allée à certains moments à la Villette, des mondes qui courent partout et qui touchent et qui rentrent. C'est que ça, à la Villette.
Bah, on l'ouvre.
Ah ben non, mais la Villette, c'est quand même un lieu de création majeur.
Je pense qu'en France, alors, c'est très restreint.
Oui, non, mais dire ça en France, c'est un tel contre-exemple à ce que vous dites.
Non, mais. Va aux Beaux-Arts, tu verras pas d'enfants.
Non. Monsieur, ouais.
Oui, je me demandais s'il n'y a pas des formes d'expression culturelle qui sont sur le déclin. La musique classique, peut-être. D'autres qui se maintiennent, comme les peintures. Et puis plein d'autres qui sont en création. La bande dessinée jusqu'en 1981, c'était pas de l'art. Puis d'un seul coup, c'est devenu de l'art. Le street art, tu l'as cité. Les jeux vidéo, on en parle maintenant comme étant de l'art.
Bien sûr, ouais.
Donc, peut-être que pour les cheveux gris, c'est la musique classique. Et pour les cheveux blonds ou bruns, c'est le street art.
Non, moi, ce que je retiens, c'est quand même l'idée de rencontre. C'est-à-dire que quand on parle culture, on a l'impression que finalement, vous voyez, on a en face de nous une proposition d'une institution, des lettres ou autre, ou d'un artiste, ou d'un groupe d'artistes, et puis en face, un public, comme si c'était une sorte de face-à-face. Mais finalement, la culture, c'est pas un face-à-face, la culture, c'est une expérience. C'est une expérience. C'est-à-dire que aller à la rencontre, comme tu le mentionnais, c'est à un moment donné se mettre dans une temporalité distincte de celle que nous avons à vivre au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a un temps suspendu. Là, je suis en train, dans ma petite tête, de faire le parallèle avec l'expérience religieuse. Il y a un temps suspendu qui fait qu'à un moment donné, je suis en capacité d'aller à la rencontre d'eux. Mais ce temps suspendu, précisément, il doit à la fois, comme tu disais, échapper aux logiques marchandes, encore qu'il faudrait peut-être y revenir, il peut y avoir un art commercial qui nourrit l'esprit. Enfin, je sais pas moi, des blockbusters hollywoodiens, ou voilà, enfin, la musique qui passe en mainstream, là, comme ça, sur les radios, sur les plateformes de diffusion. Peut-être qu'on pourrait revenir sur cette question de l'art qui devrait échapper à la logique marchande. Premier point, donc, et puis ensuite, pour que la rencontre puisse se faire, il faut que nous-mêmes soyons en capacité de s'ouvrir à cette rencontre. En capacité économique, sociale, vous l'avez dit, l'importance de la formation, de la transmission, dès l'enfance, dès la plus tendre enfance. Et puis en capacité aussi, j'allais dire, un peu ce que vous avez mentionné, monsieur, d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'effectivement, on est tous, et moi le premier, pris dans des routines de pratiques, de consommation et d'expériences culturelles, musique classique, tel type d'art, etc. Enfin, voilà. De sorte qu'on va, et encore une fois, moi le premier, hein, je suis en train d'avoir des exemples dans ma tête, dans mon expérience personnelle, avoir un certain nombre de préjugés qui vont nous dire « ça c'est... Ça mérite qu'on s'y arrête, ça, non, je disqualifie, ça, c'est pas de l'art, ça, c'est pas de la musique, c'est du bruit, c'est quoi ces rappeurs, là, on comprend rien à ce qu'ils disent, c'est toujours la même chanson, etc. Enfin, vous voyez, bref, tous ces préjugés qui sont pas forcément liés à une classe d'âge, hein, on a l'inverse, etc., qui vont nous, finalement, faire en sorte que la rencontre dont on aurait pu faire l'expérience, elle soit n'aura jamais lieu, parce qu'on sera toujours dans nos circuits fermés, soit elle sera manquée ou elle sera disqualifiée par principe, parce que tout simplement on n'aura pas été en capacité, nous, de se mettre à la hauteur de ce qui nous est proposé. Et c'est là où je reviens un peu à ce que tu disais, je crois que c'était ce que tu disais, c'est que sans doute que la rencontre culturelle, elle se fait dans des lieux qui sont disposés et pensés pour cela, des musées, des scènes de théâtre, de musique et autres lieux d'exposition, des festivals, avec plus ou moins de monde. Donc soit elle se fait, j'allais dire, comme ça, de manière impromptue, au cours d'une balade urbaine ou pas urbaine, vous arrêtez, comme tu disais, devant un abribus, devant... tel ou tel élément de dessin de rue, devant tel ou tel musicien que vous n'aviez pas prévu d'entendre, dans le métro ou ailleurs. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une rencontre culturelle, pour que la culture nourrisse vraiment nos vies, je pense qu'il ne faut peut-être pas forcément attendre que les institutions politiques et sociales nous livrent ces éléments culturels, même si c'est important, et sans doute qu'on pourra revenir sur... la question des politiques culturelles aujourd'hui, mais il faut peut-être que nous soyons en capacité, alors il faut être formé pour ça, mais aussi, il y a une question, à mon avis, de volonté et de disposition d'esprit, en capacité de, à la fois d'être éveillé, il n'y a pas toujours en train de marcher au plus vite pour aller d'un point A à un point B, et en même temps en capacité de s'ouvrir, je me répète, à d'autres types d'expériences culturelles que celles dont nous avons l'habitude. Et je pense, alors parce qu'on n'a pas encore évoqué la question de la médiation culturelle, notamment par les réseaux sociaux, par Internet, c'est à la fois une explosion culturelle, c'est-à-dire que sur un écran Internet, vous avez toute la culture du monde, à portée de clic. Vous ne verrez jamais mieux les tableaux du musée du Louvre ou de la National Gallery, volontairement j'exagère. Parce que je vois Marie-France tiquer. Mais quoi que non, je n'exagère pas. Vous ne verrez jamais mieux les tableaux. Vous ne verrez jamais mieux les tableaux du Louvre que sur un écran d'ordinateur. La Joconde, j'ai jamais mieux vu que sur mon ordinateur. Je peux zoomer, je peux prendre mon temps. Il n'y a pas 30 000 personnes devant moi. Je suis tranquille. Je suis dans mon bureau. Et c'est beau, quoi. Voilà. Et en même temps, alors effectivement, est-ce que cette expérience culturelle, est-ce que c'est vraiment une expérience culturelle? Je laisse réagir tout de suite. C'est un premier point. Et deuxième point, lorsqu'on commence à écouter la musique sur telle ou telle plateforme, etc., sur des YouTube, des Deezer et compagnie, ou lorsqu'on va voir telle ou telle expo par la médiation de la réalité virtuelle, on s'aperçoit finalement qu'on entre dans des boucles de confirmation, c'est-à-dire que la plateforme va nous proposer des choix musicaux ou des choix de films, de je ne sais quel objet culturel qui sont en lien avec ceux qu'on a déjà opérés. Et donc finalement, en fait, on va toujours aller répéter, pas forcément le même artiste, mais en tout cas le même type de culture, et c'est là où finalement on va sans doute manquer des expériences culturelles qu'on pourrait faire, qui nous sortirait de nos habitudes. Je reviens sur... Voilà, je vous laisse la parole, sinon, sur la question. Vous vouliez réagir, je crois, madame, sur...
Attendez,
je vous donne un micro.
De dire qu'on a tout sur nos écrans et que pourquoi on va aller s'emmerder à faire la queue, avoir des gens là, couche-toi là, puis faisait trop chaud, puis m'a monté sur les pieds, en plus j'allais payer. C'est vrai, non.
Et en plus, il prend des photos, je vois rien.
N'empêche que, moi ça m'a jamais fait le même effet de voir les objets en vrai et de les voir à la télé. Même des fois, il y a des objets, peintures ou autres, hein, qu'on a beaucoup vus à la télé et qu'on croit les connaître. Ben, en vrai, c'est pas pareil. Et heureusement que c'est comme ça. C'est encore comme ça. Et de mon expérience, rien ne vaut le spectacle vivant. On voit des choses, on entend des choses, on est captivé d'une manière qui ne sera jamais celle que l'on peut voir très finement sur un zoom à la télé. Mais c'est bien aussi, moi je regarde aussi des choses à la télé. Mais franchement, un spectacle vivant qui est un peu travaillé, qui est un peu professionnel, qui n'est pas juste ce que moi je serais capable de faire, évidemment. C'est quand même autre chose, hein, au point de vue émotionnel, au point de vue de ce qu'on se rappelle là. Les choses qu'on voit à la télé, c'est difficile de s'en rappeler. Pourtant, il y a des choses qui sont bien, quand même. Hein. Mais bon.
Oui, on est sur l'expérience, en fait.
Oui. Mmh. Ah, un spectacle d'acrobate, on a quand même un cirque. Le cirque russe, il est en résidence à Saint-Jean-de-Maurienne toute l'année. Hein, et ils ouvrent leur chapiteau au moment de Noël. Ils font des spectacles quand même pas très chers. Je sais pas, c'est des grands artistes. On les voit là. Moi, ça me fait jamais cet effet-là si je regarde à la télé, par exemple. Pour moi, il y a vraiment le spectacle vivant, et le reste, le livre, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, c'est dans notre tête que ça se passe. Mais le spectacle vivant, non, ça va. Pour l'instant, c'est pas détrôné. Hein. Alors là...
Madame ?
Moi, je pense qu'en fait... C'est la curiosité qu'il faudrait apprendre. Je pense qu'en fait, c'est la curiosité que nous devrions apprendre en étant tout petit. C'est la curiosité qui nous amène à ne pas avoir d'a priori, à chercher, à vouloir aller plus loin et toujours avoir au cœur ce sentiment-là, même en vieillissant. Voilà. Ça me semble le moteur de tout, tout ce que l'on vient de dire, en fait, la vraie curiosité.
Mais monsieur, attendez, on vous donne un micro.
Jusqu'à maintenant, on a parlé des récepteurs,
oui,
de la culture. On n'a pas parlé des acteurs. Ce qui est aussi important, c'est la rencontre entre l'acteur et entre les acteurs. Par exemple, au cirque, j'étais dernièrement au cirque, à Orléans, là, les acteurs, ils s'investissent, hein, d'une façon énorme. Hein, les répétitions, il y a un travail énorme qui est fait. Mais pourquoi ils font ça? Pas pour leur salaire, à mon avis. Hein, mais pour donner quelque chose d'eux-mêmes, hein, pour offrir quelque chose d'eux-mêmes à des semblables. C'est comme, les peintres, ils l'ont fait ça à un moment donné, hein, c'est resté sur la toile, hein, mais ils ont donné quelque chose, il y a une espèce de rencontre, ils ont donné quelque chose pour ceux qui vont regarder leur toile. Alors, c'est vrai qu'on entend dire, des artistes dire, moi, de toute façon, je peins ou je fais pour moi. Les autres, s'ils trouvent ça bien, moi, je veux bien. Hein. Mais on entend ça aussi. Mais moi, je pense qu'il y a une démarche de la part de l'acteur, de n'importe quel acteur, vis-à-vis de celui qui va regarder, qui va vivre avec lui, etc.
Moi, j'avais envie de prolonger sous forme de question, mais très courte, une question très courte. Vous avez très justement distingué ce que vous appelez les récepteurs et les acteurs. On pourrait même dire les producteurs de culture. La question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on peut vivre sans culture? Mais est-ce qu'on peut vivre sans être acteur, producteur de la culture? Ça rejoint un peu la question que tu posais, c'est-à-dire quelle place on accorde, nous, dans nos vies? Moi, je ne suis pas artiste professionnel. Hein. Je suis professeur de philosophie. Voilà. Quelle place on accorde, nous, dans nos vies, à la création culturelle? Non pas afin seulement en tant que spectateur, spectatrice ou récepteur, réceptrice, d'accord, en tant qu'acteur, en tant qu'initiateur. Est-ce que vous sentez cela comme un besoin? Et pourquoi sinon, ça ne serait pas un besoin.
Alors ça, c'est une explication de l'acteur qui dit, ou de peintre qui dit, moi, je fais pour moi. À l'extrême.
Moi, je vais évoquer un triangle. Il y a celui qui crée. Il y a l'œuvre et il y a celui qui rencontre l'œuvre finie. Les trois choses différencient des moments particuliers. Personnellement, je pense que celui qui crée, effectivement, c'est d'abord une expression de sa part.
C'est même un besoin, en fait. Alors, souvent, quand on entend les artistes définir un peu leur démarche,
je ne vais pas aller jusque-là, mais
besoin.
C'est en fait, pour moi, c'est effectivement produire quelque chose qui est porteur d'une émotion que j'ai besoin d'extérioriser. Bon, si je vais rapidement. Alors, ensuite, il y a l'œuvre produite. Et cette œuvre produite, bon, elle est ce qu'elle est. Et il y a celui qui va rencontrer cette œuvre. Et il va sûrement, ou en tout cas, si vraiment c'est une œuvre sensible en elle-même, ça va provoquer chez lui une émotion, mais une autre émotion. Il me semble que celui qui reçoit l'œuvre ne ressent pas du tout ce que le producteur a ressenti. Mais ce qui est important dans l'œuvre, c'est qu'elle est porteuse de l'émotion de celui qui l'a créée, et elle provoque l'émotion de celui qui la reçoit. À partir de là, il me semble qu'on a affaire à un objet culturel.
C'est très juste.
Il
Moi, si je veux être honnête, j'ai plus souvent eu l'impression que c'était les œuvres qui m'étaient tombées dessus que moi qui avais été à leur rencontre. Et il me semble effectivement que c'est une histoire interhumaine qui peut traverser les siècles. Mais j'ai très souvent eu l'impression que des œuvres, que ce soit des peintures ou des musiques, me transmettaient une connaissance qui n'est peut-être pas de l'ordre du rationnel, que je recevais en écoutant certaines symphonies de Schubert ou des sonates de Schubert, une perfusion d'une espèce de connaissance de l'être humain. Alors je pense qu'effectivement au départ il y a la sensibilité et la sensualité de l'artiste, qu'ensuite l'œuvre rencontre la sensualité et la sensibilité du spectateur ou du récepteur, mais qu'après, il y a d'abord une émotion esthétique, mais cette émotion esthétique, généralement, elle va provoquer une réflexion. Ça ne va pas s'arrêter à l'émotion esthétique. L'émotion esthétique, c'est déjà un cadeau fabuleux, mais ça ne s'arrête pas là. Et quelque part, c'est comme une espèce de transmission qui peut effectivement passer parfaitement à travers les siècles. Il y a des œuvres de la Renaissance qui nous bouleversent, des œuvres musicales qui datent de plusieurs siècles, qui sont bouleversantes et qui nous apportent une connaissance, encore une fois, qui n'est peut-être pas de l'ordre du rationnel, mais qui me paraît infiniment précieuse et sans laquelle, moi, j'aurais beaucoup de mal à vivre.
Oui, je pense que à la fois ce que tu évoquais sur l'idée de connaissance sensible, donc effectivement on a l'habitude de réduire la connaissance à des chiffres, des lettres et la culture académique, effectivement il y a une sensibilité qui est mise en branle par l'activité culturelle et qui ne se réduit pas à cette seule sensibilité. Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'humanité qui se transmet. Et puis aussi, pour revenir un peu sur ce que tu disais, des rencontres intersubjectives, c'est-à-dire qu'on a une subjectivité qui s'exprime et à laquelle, finalement, qu'on va se prendre, j'allais dire, en pleine face, d'accord, et à laquelle on ne peut pas rester, insensible. Qu'il s'agisse effectivement du travail quotidien de ces artistes du spectacle vivant, avec qui le cirque. Je pensais à l'expo, alors pour le coup, en art marchand, la grande expo que le musée d'Orsay organise actuellement sur les dernières œuvres de Van Gogh. C'est
magnifique.
Ça, t'y allais ? C'est ce que t'avais à l'esprit ? Pas encore. Donc j'ai pas eu l'occasion d'y aller encore. Parce qu'effectivement, voilà, pour le coup, voilà, c'est vraiment les grands expos avec une foule immense, il faut réserver 3 mois à l'avance, etc. Mais finalement, qu'est-ce qui se joue là? Je pense qu'on le ressent tous en tant que spectateurs, c'est que ce qu'on a vraiment, on l'a vraiment en pleine face, c'est une subjectivité sans filtre qui nous est. Voilà, qui nous est jeté en pleine figure, enfin, voilà, et qui nous ébranle. C'est-à-dire que, et là pour le coup, je vous rejoins, madame, vous pouvez voir tous les Van Gogh que vous voulez sur votre écran de télé ou d'ordinateur. Vous êtes devant la toile. Voilà, pour le coup.
Voilà. Ça imprime le souvenir aussi. On s'en rappelle longtemps.
Exactement, ça marque. Ouais. Ça marque. Il y a ça, je laisse la parole dans un instant. Moi, la question quand même que je me posais, que je vous ai posée, mais vous n'avez pas voulu me répondre. Mais c'est très bien, hein, c'est vous qui menez le débat. C'est finalement, pourquoi est-ce qu'on réserve ça à des artistes? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que, moi je parle pour moi, vous j'en sais rien, pourquoi est-ce qu'on va dire, ça c'est Van Gogh, ça c'est La Calas, ça c'est, peu importe quel type d'artiste. En se disant, il y a des artistes qui vont exprimer une sensibilité, etc., qui vont produire une œuvre, l'œuvre, ça va être la médiation, le support de cette sensibilité qui va nous ébranler et qui va nous marquer, etc. Et finalement, vous voyez bien ce que je veux dire par là, c'est qu'on a, je reprends la question de l'école, on a à l'école une éducation à l'art, qui déjà se réduit à très peu de choses, puisqu'elle s'arrête à la fin de la troisième,
Après, c'est certainement des options pour quelques élèves. Mais surtout, on n'invite pas les jeunes gens, et les pas jeunes gens, à pratiquer là. C'est-à-dire, soit quand nous sommes invités, c'est à être spectateur, spectatrice, consommateur d'art. Mais à aucun moment, je vois des pâtes à modeler, des chevalets, des...
La flûte à bec.
Oui, effectivement. Voilà, il y a la flûte à bec, on a eu la flûte à bec. Mais ce que je veux dire par là, c'est peut-être que dans la façon dont on éduque les enfants, et là, je ne sais pas si c'est Aristote, mais en tout cas chez Platon, c'est ça. C'est-à-dire que chez Platon, il faudrait que la musique soit comment dire, enseignée dès le plus jeune âge, en permanence, à n'importe qui d'entre nous, parce que c'est autre chose que simplement trois partitions et trois notes. Peut-être que voilà, il y a peut-être un défaut, peut-être ici dans l'organisation de la pratique culturelle, me semble-t-il, en tout cas je parle à titre personnel, en se disant finalement on va inviter les spectateurs à aider les spectateurs, mais ces spectateurs on va rarement les inviter à être des acteurs. À nos, modestement, je redonne la parole.
Du coup, c'était pour revenir avant sur le rapport entre les récepteurs et les acteurs. Et le fait que les récepteurs de l'art en général, de la culture, mais de l'art en général, ont donc forcément une sensibilité. Et j'avais juste une question sur le... Enfin, une réflexion. Peut-être, est-ce que c'est lié au fait que l'art créé, généré par l'acteur de base vient donc d'une sociabilité de cette personne et donc qui est forcément différente du récepteur et qui va forcément être réceptionné différemment selon chacun, et donc par là on peut tous différemment percevoir une sensibilité parce que on a tous des éducations et des différentes, et donc c'est de là que germe la sensibilité à l'art de par nos différenciations et le fait que l'acteur veut forcément créer quelque chose et faire transmettre quelque chose par son art, mais ça ne va pas forcément être réceptionné, pareillement par les récepteurs, parce qu'on est tous donc différents et que c'est cette part de mystère, parce qu'on ne sait pas ce que l'acteur de base voulait faire transmettre forcément exactement, qui fait que nous, ça nous touche, parce qu'on ne sait pas forcément où il voulait en venir, on n'a pas une réponse exacte, mais ça nous fait quand même ressentir quelque chose, ce qui... le fait grossir cette sensibilité, quoi.
Oui. Et je me permets juste d'ajouter, c'est encore plus vrai pour des œuvres. Je m'en prends du coup. C'est encore plus vrai pour des œuvres qui sont éloignées de notre horizon culturel, de notre sociabilité, socialisation, enfin bref, de notre horizon social. La question que moi je me pose, c'est comment est-ce qu'on arrive à être touché par une œuvre effectivement de l'Antiquité, par-delà des siècles et des siècles. Comment est-ce qu'on arrive à être touché par des œuvres qui sont issues de zones géographiques extrêmement éloignées dans leur horizon culturel des miennes, par de l'art. Voilà. Hier, je regardais, on s'en fiche de ma vie, mais hier soir, je regardais un film d'animation de Miyazaki. Le réalisateur des studios Ghibli, enfin voilà, et à la fin je pleure, etc. etc. Mais finalement, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on arrive à pleurer sur un film d'animation en japonais, fait par un japonais, qui n'y a pas plus japonais que Miyazaki, et il n'y a pas moins japonais que moi. C'est-à-dire, voilà, je suis jamais au Japon, voilà. Et finalement, il y a quand même quelque chose qui se joue par-delà la diversité des horizons culturels et qui nous ramène peut-être à l'essentiel, c'est-à-dire que voilà, une sensibilité qui est l'autre. Puis j'avais un troisième exemple qui me venait à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on arrive à être touché par des œuvres, alors je pense notamment des œuvres musicales ou à des œuvres picturales, totalement abstraites. C'est-à-dire qui ne représentent rien, qui sont au-delà de l'art représentatif, de l'art figuratif. Comment est-ce qu'on peut être touché par un Rothko, si vous voyez ce dont il s'agit, par un monochrome bleu d'Yves Klein, par ce genre de choses. C'est-à-dire là où finalement, alors pour Van Gogh, on comprend, il y a une subjectivité qui s'exprime de manière extrêmement brutale Vous êtes face à un monochrome bleu de Yves Klein.
Attends.
Voilà, ou un noir, ou effectivement les noirs du village.
Il faut la laisser venir.
Il faut la laisser venir.
Oui,
moi j'ai compris que quand j'ai vu, je l'ai revu, effectivement, ça veut dire. Ton gentil, celui. Là, j'ai compris. J'ai compris, mais il fallait le voir, ça, si on ne peut pas s'en rendre compte à la télé.
Oui, ça, je...
Ah non, mais c'est vrai.
Je suis d'accord.
C'est pas ça. Non, mais malgré.
Non, mais bien sûr, je suis d'accord.
La télé, quand même, c'est bien. C'est bien.
La médiation.
C'est bien. Mais c'est autre chose. Il faut pas. On ne peut pas penser que la télé, ça nous reproduit nous partout. C'est pas vrai. Mais heureusement que c'est ça, qu'il y a une partie du réel, de l'humain, du subjectif qui ne peut pas être mis dans une boîte. Moi, je trouve ça bien. C'est, tant mieux, c'est comme ça. La télé fait autre chose qu'il n'y a que la télé qui puisse faire.
Vous n'y avez jamais.
C'est pas la question que je voulais poser, mais je fais référence à ce que vous disiez à propos de la culture dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Je vais faire part de mon expérience au collège, donc il y a fort longtemps déjà, où on enseignait la musique. Mmh. En fait, c'était l'histoire de la musique. Et pendant un an, on nous a enseigné l'histoire de la musique sans jamais nous faire écouter une note de musique. C'est-à-dire, on ne savait pas la différence entre Beethoven, Mozart ou Brahms. Voilà. On n'a jamais une note de musique alors qu'il y avait déjà des électrophones. Voilà. Donc c'est quand même surprenant. Sinon, je suis persuadée que dans chaque être, il y a un pouvoir de création. Je pense simplement, on se met des tas de barrières. Alors, il y a la barrière culturelle, déjà, et puis il y a sa propre barrière qui, peut-être par comparaison par rapport à ce qu'on peut faire, il y a aussi le manque de technique. Enfin, je vois, par exemple, pour le chant, il y a plein de gens qui vous disent « Moi, j'aimerais bien chanter, mais je chante faux. » Ben oui, mais ça se travaille. En fait, on ne se donne pas toujours les possibilités. Surtout pas d'essayer, parce que en essayant, eh bien parfois on découvre des choses qu'on n'aurait jamais soupçonné le soir.
Oui.
Oui, à propos de ce qui se passe dans le domaine de l'enseignement, je voudrais citer le travail remarquable que fait Clément Joubert, qui chaque année, dans le cadre de la Fabrique Opéra, crée un opéra en y associant les jeunes des centres d'apprentissage et des lycées professionnels.
Et des lycées généraux.
Et des lycées les normaux.
Au lycée Jean Zay, il y a eu des élèves qui ont participé.
Oui, oui, en tout cas, les élèves, il y en a qui font les coiffures des chanteurs, d'autres qui vont faire les costumes, d'autres qui vont faire les décors. Enfin, ils sont très impliqués. Et je trouve d'ailleurs à chaque fois extrêmement émouvant. Il y a trois représentations, pas plus, mais à chaque représentation, il y a une partie des lycéens qui ne peuvent pas tous monter sur scène en même temps, mais par tiers, ils montent sur scène et ils sont très applaudis. Et je trouve que c'est formidable de les intégrer comme ça à la réalisation d'un spectacle. Et en même temps, c'est un moyen de leur faire découvrir l'opéra qu'ils ne découvriraient pas autrement. Donc je trouve que c'est vraiment une initiative extraordinaire et qui mériterait de faire... des émules.
Ça fait des émules. Dans d'autres régions, c'est
bien.
Ça existe dans plusieurs régions.
Et en plus, ils en sont très fiers. À Gauguin, par exemple, chez Gauguin, ils font les costumes. Ils font une partie des costumes. Hein. Et j'étais avec eux une fois, il y a bien longtemps, au début. Hein, et il y en a une qui m'ont expliqué qu'ils avaient fait le costume de tel personnage. Ils en étaient très très fiers. Et ça, c'est une création. Même s'ils étaient aidés par leurs profs, hein, c'était une création, ça, pour eux. Ils étaient créateurs.
Ouais. Parce qu'on fait confiance et parce qu'on ne se met pas des barrières, sans doute parfois imaginaires ou artificielles. Je laisse la parole à l'instant. C'est-à-dire que, à mon avis, l'une des raisons pour lesquelles nous-mêmes, on n'ose pas, une sorte d'autocensure, soit on ne nous donne pas l'occasion, c'est qu'on a l'impression que, pour X raisons, on ne sera pas au niveau. comme si finalement on réservait la production culturelle, la production artistique, ici j'entends, à celles et ceux qui auraient les compétences. Mais la question c'est, est-ce qu'il faut être compétent pour être un artiste? Enfin, quelle est la compétence d'un artiste? Peut-être que c'est d'abord... L'art, c'est pas forcément que la technique, c'est pas fororcément maîtriser un instrument ou maîtriser un pinceau.
Ils savent le faire aussi, ils savent le faire aussi.
Bien sûr.
Ils savent faire autre chose.
Oui. Oui. Oui, dans la suite de ce qui est dit, je voudrais quand même faire la part de la technique, c'est-à-dire que l'acquisition d'une solide technique permet un acte créatif, libère un acte créatif quand même. L'autre point que je voulais aborder, c'était, il me semble qu'on est très proche pour parler de la place de la culture. Et je crois que la culture, enfin en tout cas, certains artistes font la place de la culture. Et c'est un combat pour eux. Soit d'ailleurs les artistes maudits ne sont pas du tout reconnus et le combat est perdu. Soit, effectivement, au terme du combat, au terme d'une carrière, enfin, bon, ils font une place dans la société. Mais socialement, il me semble que la fonction initiale qui est attribuée à la culture, si on observe un peu, c'est la distraction. On se sert de la culture pour distraire les masses. Et on ne prend pas en compte le fait que la rencontre culturelle me permet de découvrir quelque chose en moi que je ne soupçonnais pas. Autrement dit, je m'enrichis en tant que personne. Mais ça, pour certaines sociétés en tout cas, ou certains fonctionnements sociaux, conceptions sociales, ça devient dangereux des personnes qui s'enrichissent. Et la culture, elle joue un rôle là-dedans. Alors je m'arrête.
Je ne sais pas si vous voulez réagir.
Ben, je vais partager mon expérience de lycéenne parce que c'est vrai que dans le système éducatif français, il n'y a pas beaucoup de place pour la créativité, en tout cas des jeunes, parce que c'est beaucoup de restitution et donc de cours, enfin d'apprentissage, et puis de restitution, etc. Et ce qui fait qu'on prend ça comme objectif et qu'on a l'impression qu'il n'y a que ça comme but d'apprendre. C'est comme ça qu'on va s'enrichir. C'est vrai, d'un côté, mais oui, comme l'art plastique s'arrête en troisième, on n'a plus de cours de musique ni rien, si ça ne vient pas de nous, dans nos activités extrascolaires, et donc là, ça doit venir d'une éducation, parce que souvent, si les parents ne poussent pas, bah, ce n'est pas l'enfant qui va forcément le faire, et donc et souvent, sinon, ils n'ont pas les moyens, peut-être. Et donc, si ça ne vient pas de nous, bah, on n'est pas forcément poussé aussi. Et c'est ce qui fait que des fois, bah, on est restreint à ne pas avoir accès à la culture, même si y a la gratuité ou ce genre de choses. C'est que vu que ça ne vient pas de nous et qu'en plus, on n'est pas forcément poussé au quotidien, bah, on ne s'y oriente pas vraiment, quoi.
Et pour autant, tu bénéficies, comme tous les lycéens et lycéennes et collégiens et collégiennes aussi, je crois, mais je n'en sais rien, d'un système, passe culture, avec un certain financement, je ne me rappelle plus quelle est la somme. Mais...
30 euros, et à partir de 16 ans, 30 euros, et après, à chaque anniversaire, c'est 20 euros en plus.
Voilà, et puis après, à 18 ans, c'est 300 euros. Ah oui. Ça, parce que mon fils en a bénéficié, c'est pour ça. 300 euros qu'on ne peut dépenser que dans des biens... culturel, soit des biens d'équipement, des biens des instruments ou des lieux d'exposition, des salles de concert, ça. Donc il y a quand même cette idée. Par curiosité, parce qu'on parlait de flûte à bec, etc., mais les cours de musique pour la jeune génération, c'est comment? Parce que comme tu es la seule représentante de la jeune génération, si tu t'en rappelles.
Les cours de musique. En extrascolaire ou en...
Non, à l'école, si je t'en rappelle. Il y a la pratique musicale?
Il y avait au collège.
Ouais.
Après, personnellement, ça dépend de la qualité de l'enseignement.
Non,
mais
toi, ton expérience.
Personnellement, on m'a appris à chanter La Reine des Neiges, donc c'était pas un niveau forcément... Oui, non, on nous a pas appris grand-chose. On choisit 3-4 chansons dans l'année et on s'entraîne à la chanter. Donc bah, ça nous fait chanter, mais on n'a jamais touché un seul instrument de notre vie. Et je sais par exemple que mes grands frères et sœurs avaient essayé bon, la flûte à bec ou le violon, ce genre de choses qui sont déjà un petit peu mieux. Mais nous, en tout cas, c'était que l'accès au chant et c'était oui, chanter 3-4 chansons dans l'année. Quoi.
Merci. Merci pour cette
précision. Oui, peut-être que je voudrais réagir à ce que tu disais. Alors, sur les deux points, ce que tu as évoqué, deux points, et peut-être le remettre dans le débat, tu semblais dire que pour pouvoir être acteur, créateur, ou créatrice, il faut avoir été initié à une certaine maîtrise technique. Et bien, c'est la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'il faut forcément être un technicien pour être un artiste ? J'entends par là, enfin, j'ai un exemple très précis, je ne sais pas si vous voyez de qui il s'agit, je me suis peut-être que j'ai mal interprété, tu me corriges dans un instant. Jean Robillard, je ne sais pas si vous voyez qui est Jean Robillard. Jean Robillard, c'est l'un des représentants actuels de ce qu'on appelle l'art brut. Voilà. Et Jean Robillard, il vit pas très loin de chez nous, il vit à l'hôpital psychiatrique de Deux-Maisons, à La Fleurie. Alors, depuis des années, voilà, comme résident libre, d'accord. Et Jean Robillard, il a une... il est un petit peu connu parce que Jean Dubuffet, qui était l'un des grands ardents défenseurs de l'art brut, avait un peu mis son œuvre en avant. Et oui, je trouve que j'ai eu l'occasion de voir une expo de Jean Robillard il y a quelque temps. Mais... Donc voilà, enfin, qu'est-ce qu'il fait Jean Robillard, il est technicien de amateur, complètement amateur. Il s'est fait notamment connaître, mais sans le vouloir, par son œuvre. C'est une série qui s'appelle Les fusils contre la misère. Qu'est-ce qu'il fait? Il assemble des éléments de récupération, des tuyaux, des je ne sais quoi. On les assemble même pas version Picasso avec des soudures, etc. Il met du scotch autour. Et puis ça fait des fusils, enfin ça ressemble à quelque chose, à un fusil, qui doivent lutter et abolir les misères. Là, et pour avoir vu cette exposition et puis les films qui l'accompagnaient, puis il y avait une rencontre avec lui, je vous parle vraiment à titre personnel, c'est quelque chose qui m'a, c'est quand même quelques années que vous voyez, j'ai encore en mémoire, qui m'a profondément marqué, et qui m'a un peu voilà, révélé cette idée que finalement l'art c'est pas simplement une question de moyens, de compétences, c'est une question d'engagement personnel, de subjectivité, et que si on veut, et je pense que c'est un besoin humain, c'est le besoin de création, et que rien ne peut nous empêcher d'être créateur. À partir du moment où on prend conscience qu'on a ce pouvoir de création en nous. Et Jean Robillard, c'est ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais, qui est complètement autodidacte, qui n'a jamais été dans aucune école d'art, etc. Qui n'a aucun discours académique, qui est incapable de tenir un discours académique qu'on pourrait attendre d'un Pierre Soulages, etc. Mais qui nous met voilà, son art en pleine figure. Voilà. Mais ça, c'était le premier point. Et puis, le deuxième point, peut-être qu'on pourrait remettre ça dans la discussion. Après, je laisse la parole au premier juré. C'est de savoir, finalement, est-ce que les pouvoirs publics, tu laissais entendre que les pouvoirs publics ont peut-être un intérêt implicite ou explicite à ne pas trop, éduquer, faire réfléchir, nourrir les masses populaires, comme on dit, parce que quelqu'un qui séduit, qui se nourrit, qui se construit, c'est quelqu'un de dangereux, c'est ça. Je laisse peut-être la parole, parce que peut-être que j'ai travesti tes propos, et je voudrais pas.
Et je voudrais revenir en disant que je suis pleinement d'accord avec ce que tu viens de décrire comme, j'ai envie d'appeler, vocation de l'artiste. Personnellement, j'étais un fervent, et je suis toujours un fervent défenseur, par exemple, de l'art enfantin. Donc, sur ce point, ce que je voulais souligner quand même, c'est que bénéficier de compétences techniques facilite l'acte de création. C'est ce que j'ai dit. Et par exemple, je prends un exemple simple, être suffisamment au clair sur les rapports qui s'établissent entre différentes couleurs sur l'importance des surfaces. ça va permettre d'entrer beaucoup plus vite vers le projet que je me suis donné. Je vais moins tâtonner. Mais le tâtonnement créatif, ça existe. Hein, et je ne le renie pas du tout. Voilà. Ça, je voulais répondre là.
Oui, la question que je voulais aborder là, pour peut-être aller vers un nouvel élément, c'est à partir de ce que tu disais dans la deuxième partie de ton intervention, savoir si finalement, vous partez du constat que la culture, c'est un peu la cinquième roue du carrosse, c'est un petit peu le plus faible des budgets d'un gouvernement, si on arrive à avoir 1%, on est content, etc. Finalement, pourquoi est-ce que la culture est-elle, si on est d'accord avec ce diagnostic, ainsi délaissée par les pouvoirs publics? Alors que elle relève d'un besoin, on l'a dit tout à l'heure, pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, à la fois comme spectateur, comme créateur. Finalement, pourquoi est-ce qu'on investit davantage dans les Jeux Olympiques de Paris 2024 que dans telle ou telle politique culturelle à l'échelle locale?
Ça n'importe rien. Mais pas réfléchir. Non, mais moi, simplement dire qu'en fait, la culture, ça ne rapporte rien, ça ne rapporte pas d'argent. Les communes se sont très généralement déficitaires lorsqu'elles font des points culturels et le public qui vient, même s'il paye, ça ne rapporte pas suffisamment d'argent. Je pense que c'est essentiellement un problème financier.
Ok, un argument économique.
Un argument économique, voilà.
Et puis un élément électoral aussi. Moi, j'ai entendu par des gens très bien dire qu'on payait trop à Orléans. Bon, il se trouve que la ville d'Orléans ou la métropole et la région financent quand même pas mal de lieux culturels, etc. Bon. Mais si il y a des gens qui se plaignent que ça des impôts, hein, qui payent des impôts pour une élite, et dont qui payent des impôts pour une élite, eux ils n'ont pas, soit pas envie, pas sûrement pas envie, peut-être pas les moyens, hein, d'aller. Les politiques, ils se posent des questions. Est-ce que leur sujet, les politiques, c'est l'élection? Hein? Et si leur politique culturelle ne correspond pas aux besoins de leur électeur, ça va être c'est pour ça que c'est la cinquième roue du carrosse souvent. Hein? Il y a un phénomène de. Alors on tourne en rond, parce que pourquoi les électeurs vont avoir ces réactions? Hein? C'est parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir été formés, d'avoir été sensibilisés, etc. Bon, il y a plein de raisons. Hein? Mais moi, je pense que l'aspect électoral, il est réel.
Je me demandais si l'électeur moyen se posait vraiment ce genre de questions à propos du culturel. Je suis pas sûre que.
Ok. Marie-France.
Moi, je pense surtout que la culture, ça fait réfléchir. Comme je disais, quand il y a une rencontre avec une œuvre d'art, il y a d'abord une émotion artistique extrêmement violente, mais généralement, ça ne s'arrête pas là. Derrière, on se met à penser. Le sport, ça permet de manipuler les gens, de donner l'heure du pain et du cirque, mais ça ne les fait pas réfléchir. Donc, effectivement, je pense que pour les autorités, c'est beaucoup moins dangereux de financer le sport que de financer la culture.
Oui, c'est un peu des jeux du cirque pour le pauvre peuple. En même temps que les champions sont presque tous maintenant des gens qui ont fait des études supérieures,
ce sont un peu des êtres d'exception dans leur mental, comme ils disent, dans leur vocabulaire, dans leur éducation physique, etc. C'est pas les premiers venus, hein, ces gens des Jeux Olympiques. Pas du tout les premiers venus. Moi, ça me laisse très perplexe, ça. Mais bon, c'est un autre sujet.
On a gagné le plus dans le cas respectif.
Non, mais... C'est
oui. Mais pour revenir à notre sujet, parce que sur la question de la culture et de l'art, parce qu'on a quand même dévié vers la question de l'art, est-ce qu'on n'est pas, nous aussi, mais je pense que ce n'est pas forcément lié à la société moderne ou postmoderne qui est la nôtre, hein, est-ce qu'on n'a pas une tendance à ériger les artistes, pour reprendre votre expression, comme des, entre guillemets, êtres supérieurs, c'est-à-dire qu'il y aurait soit un don... soit un talent, soit un génie qui viendrait de je ne sais où, de la naissance, d'une grâce divine, d'une fée qui se serait penchée sur leur berceau, ou qui serait liée à un travail qu'ils ont accepté de... auquel ils ont accepté de se consacrer, ou qui serait liée à une maîtrise technique que le commun des mortels n'aurait pas. C'est-à-dire que, je reviens un peu à ma question... qu'on a commencé un petit peu à travailler, c'est finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de dire, il y a les artistes, ils sont là-haut, sur leur piédestal, ce sont des génies, pour reprendre cette expression un peu large, des Van Gogh, des Mozart, des Pierre Soulages, tout ce que vous voulez, et puis il y a nous, alors on va à la fois voir contempler les dieux du stade, et puis, dans la même journée, peut-être, avant d'être allé au stade de je ne sais où, être allé voir, contempler les dieux de la peinture, les dieux de la musique, les dieux de... Comme si, finalement, la création artistique, là, je reviens pas sur la question des cultures, mais la création artistique était réservée à une élite, mais pas forcément en termes de spectateurs, mais une élite en termes de créateurs, c'est-à-dire comme si, finalement, rares étaient les élus qui... avait la chance de pouvoir produire ce qu'on appelle une œuvre d'art. Et je pense qu'il y a cette idée quand même derrière qui consiste à dire finalement que la culture, ce n'est pas démocratique. La culture, ce n'est pas démocratique. On pourra faire toutes les politiques de démocratisation de la culture qu'on voudra. On aura soit, effectivement, ce que vous parliez tout à l'heure, des réserves en disant « ça nous coûte cher, c'est réservé à une élite en termes de spectateurs », enfin, certaines frange de la société, soit si on est du côté de la création, ben en fait on n'est pas tous des artistes, c'est pas vrai, et laissons les artistes créer, et dans le meilleur des cas, espérons pouvoir aller à la rencontre et faire une expérience qui changera peut-être notre vie, mais comme si finalement la démocratie et la culture c'était deux domaines absolument différents, comme si finalement il y avait des hiérarchies, comme s'il y avait des non même pas des classes, mais des castes. Voilà, on disait, ben voilà, vous êtes Van Gogh, quoi. Van Gogh, c'est pas moi, quoi. Je pourrais dessiner tous les bonhommes patates que je voudrais sur mon petit carnet de notes. Je serai jamais Van Gogh et j'écrirai jamais comme Flaubert ou comme Hugo. Mais je pense que la question de savoir si la culture, c'est... ça relève d'un besoin, elle est aussi liée à ça, c'est-à-dire est-ce qu'on est tous en capacité, tous en droit, d'accéder à la culture en tant que spectateur et en tant qu'acteur. Je sais pas, peut-être une dernière, quelques, dernière réaction Marcel, vas-y.
Personnellement, je souhaite répondre à cette question. Moi, il me semble que est reconnu comme artiste quelqu'un qui s'est imposé comme artiste. C'est-à-dire qu'il a produit et mais, j'ai envie de dire pour, c'est pas un besoin vital la culture, hein. Autrement dit si j'ai pas de pratique culturelle je ne vais pas périr, hein. Bon. Donc déjà ça conditionne beaucoup de choses, hein. Mais si effectivement je vis moi mes émotions comme nécessairement devant les extérioriser, je vais produire. Et de toute façon, je suis contraint de produire, même si personne ne regarde, même si ce n'est pas reconnu. Puis il va y avoir, à force, il va y avoir le moment où, après avoir été nié comme œuvre d'art, ça va être reconnu. Alors, soit par des institutions, soit effectivement ça va s'imposer au regard du plus grand nombre. Mais ce que je veux dire, c'est que en dehors de cette volonté de l'artiste de se lier à un besoin extrême d'expression, personnellement je pense, chaque personne, si on lui avait laissé la possibilité, si on l'y avait incité, ce n'est pas une question de don, mais chaque personne est renvoyée à sa vie quotidienne, à son enfermement quotidien, j'ai envie de dire. Et partant de là, eh bien, ces potentialités que je souhaite, enfin, que je pense exister, ne s'expriment pas. Et c'est comme ça que, en fait, c'est moi qui ne suis pas créateur qui vais déclarer que l'autre, le créateur, est élite. Parce que moi, je ne m'en sens pas. Mais parce qu'on ne m'en a pas, on ne m'en a pas offert les moyens. Je m'arrête.
Et puis qu'on censure, hein. Et qu'on censure, et qu'on censure aussi en tant que. J'ai vécu une expérience.
Je vous donne le micro après.
Oui, je suis d'accord avec l'idée de volonté, c'est-à-dire que ça vient d'une volonté individuelle. Et à propos de la différence entre l'idée d'être un génie ou alors que le travail fournit la création, etc. J'aime bien prendre l'exemple d'un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Xavier Dolan et qui est vu comme un génie qui a été encensé à juste titre à la cérémonie des Césars, etc., des Oscars, enfin bref. Et il revenait sur son premier film qu'il a fait, où il avait une qualité d'image, enfin, le film est vraiment pas dingue, et il était très très critique sur ce qu'il a fait, et il a dit justement qu'il a appris de ce premier film, qui était une expérience, qui était pour... parce qu'il avait besoin de faire ce film, il a écrit le scénario en une soirée, sur un coup de rage, et après il a appris de ce film, il a vraiment lui travaillé sur lui-même. Et donc oui, il faut quand même avoir un peu de génie pour arriver à faire ça, mais ça part de sa volonté. Il a dit lui-même que c'était juste du travail et de l'apprentissage après avoir fait des films qui ont été reconnus mondialement comme incroyables, quoi.
Monsieur ?
Oui. C'est pas tout à fait oui, mais c'est une expérience que j'ai vécue il y a 15 jours, là, avec ma petite fille, dans une médiathèque d'Orléans, celle de la Source. Il y avait une artiste de bande dessinée, qui est assez connue maintenant, j'ai vu qu'on vendait pas mal ses BD, je sais plus son nom et son prénom. Bon, elle a fait un atelier de dessin. Alors, moi, j'accompagnais ma petite fille, je dis, je veux pas dessiner, je veux pas participer, c'est pour les enfants. Donc, j'ai vu ma petite fille se vraiment créer. Alors, c'était aidé, elle était aidée aussi par l'artiste, elle faisait au tableau des dessins, et un peu aidée. Donc, ma petite fille, elle faisait des dessins, etc. Moi, j'ai tenté, mais j'étais tellement honteux de ce que je faisais. Et ma petite fille m'a souvent. Elle se mettait devant moi, elle dit : mais qu'est-ce que t'as fait, papy, etc. J'étais très honteux parce que. Pourtant, j'aimerais bien le dessin, j'aime bien voir les gens qui dessinent facilement, etc. Ça me. Mais je ne suis pas arrivé parce que j'ai 80 ans, parce que j'étais pas à l'aise dans ce milieu d'enfants. Et c'était pour dire que les enfants, ils ont plus de retenue. Ils y vont carrément. Ils y vont carrément. Et nous, on est pour créer. Je crée dans d'autres domaines, les enfants, ils savent créer, ils savent même dire qu'ils font des œuvres d'art. C'est ma petite fille qui peint des pierres, et qui aime bien présenter ça, qu'elle a fait une œuvre d'art.
Mais elle en a fait une, de fait, c'est une œuvre d'art.
Donc, on peut dire que beaucoup d'artistes
en France et certainement ailleurs, c'est beaucoup des filles et des fils d'eux quand même, et des frères d'eux, et des familles. Hein. Et puis il y a quelques-uns qui sont tout seuls, qui entrent, mais c'est vraiment, vraiment beaucoup par famille. Au niveau des chanteurs, c'est plus connu, ah, là, oui, ça se voit bien. Hein. Mais pas seulement au niveau des chanteurs, le cinéma. Hein. Bon, ça aide, hein.
Oui, bon, on revient sur les questions de la socialisation, de l'information. Oui, si on voulait résumer en un mot, ou en trois mots plutôt. Moi, je partirais d'une phrase, je crois que c'est vraiment c'est de mémoire, mais je crois qu'elle est attribuée à l'écrivain russe Tolstoï. Tolstoï, on lui prête cette phrase, « Tout Shakespeare ne vaudra jamais une paire de bottes. » Tout Shakespeare ne vaudra jamais une paire de bottes. Sous-entendu, c'est sympa la littérature, il sait de quoi il parle, hein. C'est Tolstoï. Mais ce dont on a besoin, vous l'avez rappelé à la fin, d'abord, c'est d'une paire de bottes. Quand il pleut, quand il fait froid, comme en cette saison, ça serait indécent, déplacé, et même en partie insultant, que d'offrir l'intégrale de Shakespeare à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. En disant, tiens, j'ai pensé à toi, voici tout Shakespeare. Oui, mais moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de manger, de me chauffer, j'ai besoin d'une paire de bottes, enfin, j'ai des besoins qui sont ceux de mon corps. Et ça reste juste, ça, je pense que... Et on peut comprendre, enfin, je ne jette pas la pierre, que au moment de la pandémie, en fait, on laisse les commerces dits de première nécessité ouverts, ceux qui nous vendent des paires de bottes, et puis on ferme les commerces, les librairies, vous vous rappelez, il y avait toute une polémique. Et donc, en fait, non, Shakespeare, ça attendra. Shakespeare attendra. Et la question, c'est de savoir, je pense que c'est, voilà, enfin, il faut garder ça à l'esprit. Mais la question, c'est, Shakespeare attendra, mais combien de temps ? Combien de temps Shakespeare attendra-t-il ? C'est-à-dire, dans nos vies, est-ce qu'on peut vraiment vivre sans Shakespeare, sans les artistes qui nous nourrissent ? Et je pense que la question qui a été posée et qu'on a essayé de... ce dont on a essayé de débattre, c'est finalement le savoir si, au-delà de ces besoins du corps, il n'y aurait pas des besoins spirituels. C'est pour ça que je faisais le lien à un moment donné, je ne l'ai pas développé, entre l'art et... entre la culture, pardon, et la religion. Des besoins spirituels qui seraient tout aussi importants, vitaux, pour nous, que ceux du corps. Et je pense que, évidemment, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'aucun être humain, depuis les peintures rupestres de nos ancêtres Néandertal ou Sapiens, jusqu'aux expos les plus contemporaines qui peuvent nous désarçonner quelque peu parfois, aucun être humain ne peut vivre sans culture. Parce que nous sommes des êtres biologiques, nous sommes des vivants, mais nous sommes des êtres culturels, nous sommes des êtres, disait Edgar Morin, grand anthropologue, nous sommes des êtres bio, il écrit comme ça, bio, flèche, culturel, avec une flèche retour vers bio. C'est-à-dire nous sommes des êtres dont la biologie nous pousse vers la culture, au sens le plus large du terme, de la technique et de l'art, et dont la culture redessine finalement notre capacité à vivre dans le monde. Il n'y a pas plus culturel que la main d'une personne humaine hein, qui est façonnée par mon corps, bien évidemment, mais évidemment par ma profession, par mon expérience sociale. Et finalement, une fois qu'on a dit que tout Shakespeare ne valait pas une paire de bottes, on a bien envie de se dire, mais en fait, c'est bien, c'est évidemment essentiel d'avoir une paire de bottes, mais c'est quand même aussi essentiel d'avoir Shakespeare. Et finalement, je pense qu'en ce sens, on a compris que, à la fois comme spectateur et comme créateur, parce que nous sommes, à mon avis, tous mus par ce besoin de création qui va s'exprimer d'une façon différente, variée, avec plus ou moins de compétences techniques, la culture, c'est finalement ce qui va nous sauver. La culture, c'est ce qui sauve le monde. La technique, ça peut donner des armes. La politique, ça donne l'exclusion. La culture, on l'a dit, vous l'avez dit, en rappelant telle ou telle expérience, c'est ce qui nous rassemble en tant qu'humains. C'est ce qui nous fait voyager à travers le temps. Fait voyager d'une contrée à l'autre ce petit bout de caillou perdu dans l'univers qu'on appelle la Terre. Et la technique, finalement, c'est peut-être ce qu'il y a à la fois en nous de plus intime et en même temps ce qu'il y a en nous de plus universel. Et finalement, la culture ou l'art, la culture au sens de ce supplément d'âme, c'est ce qui réconcilie la singularité d'un artiste ou d'une personne à qui l'artiste s'adresse et l'universalité du genre humain. C'est-à-dire qu'à travers finalement ce jeu d'un toi à moi ou d'un moi à toi, de ce jeu vraiment hyper singulier de l'artiste qui, par la médiation de l'œuvre, s'adresse à un individu, à une personne, ce qui se joue, c'est notre humanité. Notre humanité dans à la fois son savoir, dans sa sensibilité, ce pourquoi on va pleurer, on sera ému par les mêmes œuvres, on sera admiratif des mêmes performances, on sera scandalisé, on n'a pas évoqué ces œuvres-là, par telle ou telle proposition, on sera finalement ramené à notre commune humanité. Et il me semble que, et là notre discussion s'est progressivement orientée vers la question de la création artistique, finalement, on va traiter deux sujets en un, que l'une des raisons pour lesquelles, finalement, la culture n'attend pas ou n'attend pas trop longtemps, c'est parce que, je reprends ça, c'est une phrase que l'on doit à un peintre hollandais, Paul Klee, peintre du XXe siècle, Klee disait que l'art, il ne parlait pas de culture, il parlait de l'art. L'art, c'est ce qui rend visible l'invisible. Et cette phrase, je la trouve vraiment particulièrement juste et particulièrement éclairante. L'art, c'est ce qui rend visible l'invisible. Du visible, on en a partout. Voilà. Tout est visible. Et on en a de plus en plus avec la transparence des réseaux sociaux, et ça. Le visible, voilà, c'est ce qui s'offre à moi. L'art, c'est ce qui va rendre visible l'invisible, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas parce qu'il est implicite, ce qu'on ne voit pas parce qu'il est absent, parce qu'il est parti, ce qu'on ne voit pas parce qu'il est transcendant, il est sacré, l'art religieux, l'art funéraire, et ce qu'on ne voit pas finalement parce qu'on ne pourra pas le voir avec nos yeux. C'est-à-dire que dans une zone commerciale, je reviens sur ce que tu évoquais à un moment donné sur la commercialisation de l'art, dans une zone commerciale, comment est-ce qu'on va attirer le regard du client en rendant notre produit le plus visible possible, le plus exposé possible? C'est ça, la vitrine. La vitrine, c'est ce qui rend visible le visible. Vous m'avez vu, voilà, c'est à moins 30%, voilà, achetez-moi. Alors que l'art, c'est précisément ce qui va te dire, non, il n'y a pas de vitrine. Il n'y a pas de vitrine. Moi, je vais te rendre visible ce que tu ne vois pas. Et ça va être pour toi, ça va demander de ta part une volonté, un effort, un cheminement, de la patience peut-être, une disposition, une formation, une curiosité. Je pense que c'est une qualité que vous avez évoquée qui est ici essentielle. Il faut être curieux de l'invisible. Et c'est pour ça que finalement, dès qu'il y a eu humanité, il y a eu un rapport au sacré et il y a eu un rapport à l'art. Mais les deux étant liés finalement, l'expérience artistique que chacun et chacune nous pouvons faire en tant que spectateur, en tant qu'acteur, en tant que créateur, c'est une expérience de l'invisible, c'est une expérience du sacré, c'est une expérience de la transcendance. Il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'on aurait bien du mal à nommer, qui aurait peut-être de l'ineffable. C'est quelque chose, finalement, c'est ce que l'artiste nous donne à voir dans ce qu'il expose d'abord pour lui-même. Et c'est peut-être là d'où vient, le besoin de création et de l'enfant, et de chacun d'entre nous, alors moins de filtres chez l'enfant que chez nous. Et finalement, c'est qu'on ne se contente pas du visible, on ne se contente pas de la paire de bottes. Quand je lis Shakespeare, j'accède à l'invisible. Sur ce, il y a des petites substances très visibles qui nous attendent.
Des bottes.
On va manger des bottes.
Avez-vous des bottes, Marcel, dans ta botte?
Bravo. Elle est là, c'est...